Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le sida et entre autres du rôle des associations dans cette lutte contre le sida. On en parle avec deux journalistes, Hélène Cardin et Daniel Messager, journalistes à France Inter. Elles viennent de publier ensemble La Révolution Sida. C'est un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob avec la participation du professeur Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois.
Des autotests, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'on va dans une pharmacie et qu'on prend. Et comme si c'était un test de grossesse par exemple, bah c'est hyper pratique. Si ça existe, c'est hyper pratique.
Bah, si ça peut être fait à domicile, c'est aussi bien, c'est très bien, oui. L'important, c'est de le faire d'une façon comme d'une autre.
Ah, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que les gens vont se suicider. Personnellement, je pense que si je suis chez moi et que j'apprends que j'ai le sida tout seul, je peux faire des grosses conneries.
Je pense que ça peut être pratique, c'est plus confidentiel et plus efficace, je pense.
Ça se fait, ça? Les tests à domicile? Quel est le contrôle? Et quel est le suivi?
Si la méthode est faite à domicile, pourquoi pas? Loin des regards, en tout cas, des autres, puisque je pense que la difficulté est justement le regard vis-à-vis de l'autre.
Je pense aussi que c'est relativement efficace de faire un test chez soi, parce que du coup, on peut dépister de plus en plus rapidement le sida et les MST. Ça peut accélérer le traitement et aider à la guérison.
Le confort de faire des dépistages dans des centres, c'est qu'il y a des professionnels qui sont là, de la psychologie et de la médecine, qui sont là pour nous encadrer. Quoi qu'il arrive, moi je suis sûr que si je l'apprends que je suis séropositif lors d'un dépistage, je pourrais faire un malaise. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir sur la question plus longuement avant de tenter quoi que ce soit.
C'est vrai que si on a la possibilité d'aller en pharmacie acheter un autotest et de le faire chez soi, on le ferait beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement.
Ces propos ont été recueillis par Jean-Baptiste Chatin dans la rue. Daniel Messager, vous aviez envie de réagir à ce micro-trottoir.
Oui, c'est très intéressant. Il y avait une jeune fille qui disait quasiment tout. Elle disait, au moins, on pourra se faire soigner rapidement. Voilà, c'est ça le but de l'autotest. Il y a quelques jours, le Conseil national du sida s'est montré favorable à ce qu'il y ait des autotests en France. C'est maintenant au ministre de la Santé en France, Marisol Touraine, de décider. Mais le but, c'est effectivement d'engager plus de personnes vers le dépistage, puisqu'on se rend compte, en France, Hélène le rappelait tout à l'heure, qu'il y a encore 7 000 nouvelles contaminations, et qu'il y a des gens qui ne se font pas dépister. On estime qu'il y a environ 30% des personnes qui ne se savent pas porteuses du virus. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles aient connaissance de leur statut, donc elles doivent se faire dépister. Elles ne vont pas dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, donc peut-être qu'un autotest, ce sera l'occasion pour elles de se faire dépister. Le Conseil national du sida a bien précisé qu'il fallait un encadrement. Certes, ça se ferait chez soi, donc on serait seul, mais l'encadrement, ce serait tout de suite, on pourrait appeler une ligne téléphonique qui serait ouverte 24 heures sur 24, et on aurait un accompagnement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et je voulais juste réagir aussi un petit peu au monsieur qui disait « Moi, je vais me suicider si j'apprends ça ». Pourquoi le Conseil national du sida s'est proposé en faveur de l'autotest? C'est qu'on n'est plus dans le même contexte qu'il y a effectivement 15 ans avant l'arrivée des trithérapies. À l'époque, quand on
en mourait.
Voilà, on en mourait, disons les choses clairement. Ce n'est plus le cas maintenant. Enfin, on meurt encore du sida. Mais si on se fait soigner rapidement avec les trithérapies, on peut mener une vie quasi normale.
Hélène Cardin.
Non seulement on peut mener une vie normale, mais surtout quand on est sous trithérapie, on ne contamine plus ses partenaires sexuels. Ça, c'est extrêmement important. Or, on ne le sait pas. Comme on ne sait pas aussi que quand on a eu un rapport sexuel qui s'est mal passé ou sans préservatif, et il faut tout de suite aller à l'hôpital et demander un traitement d'urgence, un traitement d'urgence. Ce traitement d'urgence, on n'en parle même pas en France. Or, c'est extrêmement important. Vous êtes après sous trithérapie, si vous avez eu ce rapport non protégé.
Pendant 2-3 mois, c'est ça?
Non, moins que ça. Quelques semaines. Quelques semaines, et vous ne serez pas contaminé. Là, il faut répéter ça.
Ce traitement juste post-exposition, vous savez qu'il est disponible à Bukavu en RDC, dans le service du docteur Mukwege, justement à l'hôpital Panzi. C'est ce qui fait quand les patientes arrivent juste après le viol. Il donne ce traitement tout de suite. C'est important de le dire parce qu'il existe aussi en Afrique. Ce qu'on ne sait pas souvent, on sait que ça existe en France, mais pas forcément en Afrique. On a Astou qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Astou, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez envie de nous parler d'une association à Dakar au Sénégal. On vous écoute.
Ok. Alors, merci beaucoup. C'est juste pour parler de l'engagement des associations dans la lutte contre le sida. Comme en tant que présidente d'une organisation qui regroupe des femmes qui sont affectées ou infectées par le VIH. Et nous sommes également membres du réseau national de lutte contre le sida. Et nous nous sommes engagés auprès des autorités et des acteurs pour booster la réponse au VIH-Sida au Sénégal.
Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail associatif? Vous travaillez particulièrement auprès des femmes. Hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Nous travaillons particulièrement auprès des femmes, mais la principale difficulté, d'abord, c'est la stigmatisation et la discrimination qui continue à laquelle font face les femmes vivant avec le VIH, et particulièrement les personnes vivant avec le VIH, et particulièrement les femmes. Vous savez, au Sénégal, il y a un fort taux de stigmatisation chez la population générale. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie des personnes qui vivent avec le VIH n'osent pas parler publiquement de leur statut sérologique. Donc, ils vivent leur statut sérologique en cachette. Et ce qui peut poser quelques problèmes pour la prise en charge médicale, c'est-à-dire, elles ne peuvent pas respecter comme ils le font leur consultation, leur suivi médical, mais aussi également par la prise de médicaments. Elles prennent leurs médicaments en cachette. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, nous avons des problèmes.
C'est vraiment compliqué. C'est important. Oui, allez-y, Astou.
Oui, l'autre problème particulier que nous avons, c'est la réticence des bailleurs de fonds. Là, on se rend compte que de plus en plus, les bailleurs de fonds se retirent de la lutte contre le sida, et plus particulièrement dans les pays qui ont un peu taux de prévalence les moins élevés. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons la principale difficulté que nous avons, c'est qu'à 90% du financement du Sénégal dans la lutte contre le sida dépend du Fonds mondial. Et un jour, nous pensons que le Fonds mondial va bientôt se retirer du Sénégal. Et cela poserait le problème de maintenir les acquis que nous avions déjà dans la lutte.
Et du coup, comment on fait? Hélène Cardin, vous avez envie de réagir sur les deux choses, hein, les baisses des aides internationales et la discrimination.
Exactement. Alors, sur la baisse de l'aide internationale, j'ai interviewé justement pour ce livre le docteur Awa Marie-Colsec, qui est ministre de la Santé du Sénégal, qui m'a dit, mais bien évidemment que les bailleurs de fonds, s'ils se retirent, il va bien falloir que l'État sénégalais fasse face. Parce qu'on ne va pas dire aux malades, les traitements c'est fini, vous allez mourir maintenant sans rien dire.
Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'était le premier point, l'aide internationale. Le deuxième, la discrimination. Alors, faut le rappeler qu'elle est au nord comme au sud. Hein.
Alors, la discrimination, elle est au nord comme au sud. Ça, c'est d'ailleurs l'un des grands regrets de Françoise Barré-Sinoussi, qui a eu le prix Nobel de médecine pour avoir isolé le virus du sida. C'est que cette discrimination, elle ne baisse pas. Et il y a un problème aussi qui est très grave en Afrique, c'est l'homophobie. L'homophobie, cette espèce de refus d'admettre, comme dit le professeur Éolier, il y a des tas de pays d'Afrique où on considère que l'homosexualité, une bonne fois pour toutes, n'existe pas et n'existera jamais. Donc, les homosexuels n'ont qu'une seule solution, se marier. Ils ont quelquefois plusieurs femmes, et ils ont plusieurs hommes, amants, et ils contaminent tout le monde. C'est un facteur de contamination absolument incroyable, cette homophobie.
C'est important ce que vous dites, parce que pour faire de la prévention, pour avoir de bons messages de prévention, il faut éviter cette discrimination, que ce soit envers les homosexuels, les usagers de drogue, les prostituées.
C'est ça qui est vraiment... Et les toxicomanes.
Qui est aussi très important. Un mot à rajouter, Daniel Messager?
Oui, juste un chiffre. Il faut savoir que pour le Fonds mondial qui a besoin d'ici 2015 d'environ 22 milliards, il manque quand même 30% actuellement, et qu'on voit avec la crise économique qui touche tous les pays, certains pays déjà se désengager de leur participation au Fonds mondial, et ça ce serait effectivement une catastrophe, puisque ces pays maintenant sont sur une dynamique de prise de traitement. Si on casse cette dynamique, on va revenir en arrière, et Françoise Barré-Sinoussi le disait, on va reconnaître une période absolument épouvantable. On ne peut pas casser cette dynamique, il faut que les pays continuent à s'engager. Absolument.
Merci beaucoup, Astou, hein, donc pour votre témoignage. Vous avez soulevé deux choses importantes que sont la discrimination et la question de l'aide internationale. On a au téléphone Gracien Chibungiri, qui est coordinateur de l'association SOS SIDA à Bukavu. On est à l'est de la République démocratique du Congo. Gracien Chibungiri, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est la prévalence d'abord du sida dans votre région, particulièrement à l'est de la RDC?
Oui, nous sommes dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, où la prévalence est autour de 2,9%.
Quelles sont les difficultés d'accès au traitement auxquelles est confrontée la population, les porteurs du VIH-Sida?
Oui, en fait, On peut dire que la trithérapie, les ARV de première ligne sont disponibles, mais uniquement pour les personnes adultes. Ce qui pose problème, vraiment, ce sont les ARV pédiatriques. Donc, on connaît un grand problème d'approvisionnement en ARV pédiatrique, si bien que on est obligé d'adapter les molécules adultes pour les enfants. Ça, c'est le grand problème qu'on a au sud Kivu. Le deuxième problème qu'on a, c'est la disponibilité des ARV de deuxième ligne, autant pour les adultes que pour les enfants. Et là, c'est vraiment un très gros problème pour la prise en charge des malades qui ont déjà un certain nombre d'années sous traitement, 10 ans, 15 ans, voire même plus. Parce que la disponibilité des ARV de deuxième ligne vraiment pose un grand problème. La disponibilité des ARV pédiatriques pose un grand problème. Alors, ce qui est aussi problématique, c'est la prophylaxie, donc les co-utilisateurs pour la prophylaxie. Et donc, on a moins de 5% de couverture en coterie. Et là, ça pose vraiment un grand problème pour la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH.
Hélène Cardin, une question par rapport à la différence de prise en charge entre le Nord et le Sud. Moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis un moment, c'est qu'on ne met pas les patients sous traitement au même moment au Nord et au Sud. Il reste une inégalité.
Ah, considérable. Considérable parce que, d'abord, il faut aussi que les patients en Afrique qui sont tellement discriminés acceptent aussi de se faire soigner. Donc, ils attendent pour prendre le traitement. Alors que nous, en France, dès qu'un patient sait qu'il est séropositif, il est traité tout de suite. Mais il ne subit pas la même discrimination. Mais c'est vrai que ce retard-là pose problème, parce qu'il laisse quand même, entre-temps, le temps de développer des maladies opportunistes et de faire que le virus circule plus et se cache plus dans l'organisme. C'est un vrai problème, ça.
Une dernière question, Gratien Chibounguiri. Je crois que vous voulez insister sur la question du dépistage. Vous avez du mal à convaincre les gens d'aller se faire dépister.
Oui, non seulement du mal à convaincre que certaines catégories de la population à s'ouvrir au dépistage volontaire du VIH, mais il se pose un grand problème d'accès au dépistage. Vous savez, le dépistage, c'est la porte d'entrée de la prise en charge médicale et même psychosociale. Or, il se fait qu'à l'heure des faits, 50% des personnes qui sont portées du VIH aujourd'hui ne le savent pas, ils sont ignorants. On sait aussi que, par exemple, dans notre province du Sud Kivu, qui a 65 000 km², avec 5 millions d'habitants à peu près, nous ne disposons d'à peu près que d'une quarantaine de centres de dépistage pour toute la province. Et donc, l'accès au dépistage est très, très faible. Et si on ajoute à cela les freins socioculturels qui font que certaines catégories de la population, comme les jeunes filles, par exemple, ne peuvent pas facilement accéder au dépistage, ça fait que, en fait, ça pose un problème non seulement pour la prévention, mais aussi pour le traitement. Et c'est pour cela que notre organisation, la société SIDA, a mis un grand paquet pour le dépistage du VIH, parce que en 3 ans, nous avons mis sur pied, nous avons mis en œuvre 3 centres de dépistage dans la province du Sud Kivu, un dans la ville de Bukavu et 2 en milieu rural, parce que nous avons estimé qu'on ne peut pas parler d'atteindre les objectifs de zéro nouvelle infection si les personnes n'ont pas la capacité, n'ont pas le moyen de se faire dépister. Donc, nous voulons promouvoir le dépistage volontaire anonyme et gratuit du VIH pour que les personnes réellement puissent se dépister.
Merci beaucoup, Gratien Chibounguiri. C'est important ce que vous soulignez là. Il y a un autre auditeur qui nous a aussi appelé, Romuald de Libreville au Gabon, et qui dit qu'il y a un problème aussi d'accès au traitement dans les zones reculées. Il ne suffit pas que ça existe dans les capitales ou dans les grandes villes. Il faut aussi que ce soit atteignable dans les zones reculées. Autrement, les patients ne peuvent pas venir jusqu'au centre de santé. On va prendre une dernière intervention d'un auditeur. Pierre, vous êtes aussi à Bukavu, en République démocratique du Congo, et vous êtes médecin. Et vous vouliez intervenir. On vous écoute, Pierre.
Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir dans votre émission. Ce que je dois dire, c'est que au-delà de tous les aspects médicaux et de tous les problèmes médicaux dont mon collègue que je connais bien, tu vas me dire, a parlé et que je salue. Je voudrais vraiment dire que le gros problème en tant que nous avons, c'est d'arriver à mettre les personnes que nous soignons. Donc là, je parle des patients, de les mettre dans des associations, de les amener à vivre dans des associations. Il y a vraiment d'énormes problèmes pour arriver à mettre les PVVIH dans les associations, alors que nous avons vraiment besoin qu'ils vivent soudés, qu'on puisse les accompagner en partant de leurs associations. Et ça, c'est un problème.
C'est très intéressant ce que vous dites, Pierre, parce que ça rejoint ce qu'on a dit au début d'émission, où finalement ce sida a changé les rapports entre médecins et malades. Et on en est même à entendre maintenant des médecins dire qu'ils ont besoin des associations.
Absolument.
Et le
Cardin. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. C'est très frappant. C'est très, très frappant.
Oui, Daniel Messager.
On voit par exemple la situation en France des femmes migrantes aussi. S'il n'y avait pas des associations comme Icambéré, par exemple, ces femmes se retrouveraient dans un état d'isolement total parce qu'elles sont souvent rejetées par leur propre famille lorsqu'elles se découvrent séropositives. Elles aussi sont obligées de se cacher pour prendre leur traitement. Donc, le rôle de ces associations est absolument indispensable.
Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir rappelé de Bukavu en RDC. Si vous le voulez bien, on va terminer en parlant prévention et en parlant de l'utilisation du préservatif.
Joli dragon! Où est-il?
Priorité santé sur RFI.
Et comme toutes les semaines, on retrouve la chronique du docteur Catherine Solano, qui est sexologue. Catherine Solano, vous avez eu envie de nous parler du préservatif. Il faudrait d'abord rappeler pourquoi il est fortement conseillé d'utiliser un préservatif.
Déjà, on utilise le préservatif comme contraception aussi. Et bien sûr, comme on vient de parler, surtout pour se protéger des infections sexuellement transmissibles.
Lesquelles ?
Alors, il protège bien sûr contre le VIH, le virus du sida dont on vient beaucoup de parler, mais il protège aussi contre d'autres infections comme l'hépatite B, aussi contre la syphilis, la blénorragie, les chlamydies, et contre plein d'autres infections sexuellement transmissibles.
Alors, dans quelles circonstances faut-il utiliser ce préservatif ?
Eh bien, déjà, il faut l'utiliser même quand on est en couple, quand on ne vit pas dans la fidélité. Parce que même dans ce cas-là, on peut quand même choisir de se respecter mutuellement et de ne pas se mettre en danger. Ensuite, on utilise le préservatif pour les diverses pratiques sexuelles. D'abord, on l'utilise pour la pénétration vaginale, bien sûr, mais aussi pour la fellation. Et il faut aussi l'utiliser pour la pénétration anale, parce que c'est la pratique sexuelle la plus à risque pour les IST.
Alors, que peut répondre une femme si son partenaire ne veut pas mettre de préservatif ? On va voir plusieurs éléments de réponse qu'on peut entendre de la part des hommes. Par exemple, s'il dit « avec un préservatif, j'ai moins de sensations ».
Eh bien, elle peut répondre « pour une femme, c'est pas tellement gênant parce que du coup, faire l'amour dure plus longtemps. Et si ça t'embête vraiment, on peut toujours trouver des préservatifs très très fins ».
Alors, ou bien si l'homme dit « les préservatifs sont trop petits, ça me sert, ça me fait mal ».
On peut lui dire « pas de problème, on peut acheter des préservatifs de grande taille ou king size, ça existe aussi ».
On entend aussi « le préservatif n'est pas efficace à 100%, alors à quoi bon s'embêter ?»
Eh bien, dans ces cas-là, ce qui est pas mal, c'est de dire le seul truc efficace à 100% contre les IST, c'est l'abstinence. Et sans préservatif, l'efficacité, c'est 0%.
Alors, même si un des deux partenaires est séropositif, il y a très peu de risques de contamination. Des tas de couples, d'ailleurs, ont fait l'amour comme ça, sans se contaminer. Qu'est-ce qu'on répond à ça
hein? Les millions de personnes séropositives dans le monde, tu crois qu'ils l'ont attrapé comment?
Et autre question ou autre phrase qu'on entend souvent, si tu m'aimais, tu ne me demanderais pas de mettre un préservatif.
Alors ça, c'est l'argument vieux comme le monde. Moi, je dirais c'est justement parce que je t'aime et que je te respecte que je ne veux pas te faire courir de risques.
Et alors, si tu me faisais confiance, tu ne me demanderais pas de mettre un préservatif.
Alors là, la confiance et les infections sexuellement transmissibles, ça n'a rien à voir. Les personnes séropositives sont aussi dignes de confiance que les autres. Ça me tient beaucoup à cœur.
Une autre phrase qu'on entend aussi, c'est la première fois que je fais l'amour, je ne peux pas avoir d'IST.
C'est possible que tu n'aies pas d'IST et que je n'en ai pas non plus, mais pour en être certain, il faut faire un test de dépistage et en attendant, moi, je préfère utiliser un préservatif.
Autre chose qu'on entend aussi souvent, c'est que je n'oserai jamais passer à la caisse avec des préservatifs, la caissière va rigoler.
Alors, dans ces cas-là, on peut en acheter dans un distributeur, lui, il ne va pas rigoler.
Et autre phrase, si tu insistes tellement pour le préservatif, c'est franchement que peut-être tu es contaminé.
Justement, c'est parce que je me protège systématiquement que je ne suis pas contaminée, que je n'ai pas envie de l'être.
Et je ne peux pas, je suis allergique au latex.
Dans ces cas-là, c'est simple parce qu'il y a des préservatifs sans latex qui sont aussi efficaces et qui en plus sont fins et résistants.
Vous avez réponse à tout, Catherine Solano. Je n'ai jamais
parce que j'ai réfléchi avant.
Je n'ai jamais eu aucune maladie.
Ben ça, c'est intéressant parce que tout le monde est bien portant avant de tomber malade. Et en plus, les séropositifs ne sont pas spécialement malades parce que le sida se déclare souvent après des années de bonne santé apparente.
Et alors, les hommes disent aussi souvent « je ne peux pas mettre de préservatif, ça me fait perdre mon érection ».
Et ça, ça peut être vrai. Hein. Et ben dans ces cas-là, il suffit de répondre « peut-être, ça peut arriver, mais avec moi, tu n'as pas trop de risques parce que je vais te faire plein de caresses et c'est moi qui vais te mettre le préservatif, donc je pense que tu vas garder ton érection, on peut faire un test ».
Mais ceci dit, docteur Solano, c'est pas toujours facile d'avoir réponse à tout comme ça dans des moments un peu cruciaux.
Non, non, c'est pas facile d'avoir réponse à tout. Et justement, moi, je trouve que la meilleure solution, c'est pas spécialement d'avoir réponse à tout, mais c'est plutôt d'en parler avant. Alors évidemment, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se plaît, qu'on s'approche, c'est pas très facile de dire, écoute, si jamais on fait l'amour, est-ce que tu seras OK pour mettre un préservatif? Ça, personne ne dit ça. Mais par contre, ce que je conseille, c'est de passer une petite remarque discrètement, si on peut dire, de dire par exemple, bah, c'est bien qu'ils fassent des c'est bien qu'on voit des campagnes de prévention contre le sida et pour le préservatif. Je trouve que tout le monde devrait être encore plus au courant. Ou bien dire quelque chose comme, moi j'ai une copine qui est séropositive, je trouve ça vraiment horrible tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu mettre de préservatif, c'est quand même bête. Comme ça, elle passe le message à son partenaire. Bien sûr, l'homme peut faire ça aussi, hein. Je parle du côté des femmes parce que j'en suis une. Mais... Donc elle passe le message et il se dit, bah, si jamais on va jusqu'au bout ensemble, elle a envie que je mette un préservatif. Du coup, il osera l'utiliser. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couples où il y a un homme et une femme qui s'apprêtent à faire l'amour et si vous pouviez lire dans leur tête, vous savez, avec une petite bulle comme dans les BD, elle penserait... Pourvu qu'il me propose de mettre un préservatif le premier. Et lui, il se dit, pourvu qu'elle me parle du préservatif la première. Et puis, personne n'ose en parler. Et du coup, on n'en met pas. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que, si vous voulez, 90% des gens se disent qu'il faut en mettre quand même. Hein.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Hélène Cardin, une réaction par rapport à tout ce qui vient d'être
dit? Je trouve qu'elle est formidable parce qu'alors, en plus, elle nous a fait une espèce de fresque.
De toutes les réponses possibles.
De toutes les réponses. Alors, non seulement il faut en parler hors contexte hyper affectif et hyper rapproché, mais il faut apprendre par cœur tout ce que vous avez dit.
Ça va être le conseil, Daniel Messager.
Oui, c'est très important de le mentionner à chaque fois parce qu'on se rend compte dans les enquêtes en France, par exemple, que les jeunes mettent souvent un préservatif lors du premier rapport. Ça se fait très fréquemment, mais qu'après, on l'oublie parce que justement, on se sent un peu en confiance, on connaît mieux la personne. Et à chaque fois, il faut redonner l'information sur le préservatif, même si on a l'impression que ça fait des années qu'on le fait. Ben oui, tant que le sida est là, il faudra continuer à le faire.
Et alors justement, Hélène Cardin, ça reste quand même étonnant, autant de nouvelles contaminations en France, dans un pays où il y a un accès au traitement. Comment ça se fait?
Alors écoutez, j'ai trouvé ça dans le cabinet de mon infirmière, un beau petit tract. Une personne séropositive sur trois ne sait pas qu'elle est infectée par le virus
du sida. Ce que disait Daniel
Messager
tout à l'heure.
Ce que disait Daniel. Déjà, pour commencer, donc il y aurait à peu près 100 000 séropositifs en France.
Donc 30 000 ne le savent pas.
Bon. Déjà, ils contaminent, bien évidemment. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre dans la tête des jeunes, en particulier des jeunes homosexuels, que le sida ne se guérit pas, que le sida n'est pas une maladie chronique comme les autres. Et puis, il faut dire aux associations qu'il faut qu'elles reprennent leur bâton de pèlerin et qu'elles retournent faire de la prévention sur les lieux de drague et dans les boîtes de nuit. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les jeunes draguent, je le sais depuis que j'ai fait ce livre, les jeunes draguent...
Vous êtes allé voir où?
Voilà, sur leur smartphone, ils regardent exactement, il y a un petit jeune homme qui m'a dit, vous voyez madame, l'homme que je désire, il est à 136 mètres de mon palier. Donc voilà, il appuie sur son petit bouton, il lui dit tu viens et c'est fait. Il n'y a pas de prévention possible avec ce système-là. Autrefois, il y avait les boîtes de nuit et c'était différent.
Et alors justement, vous avez l'impression que les associations dont on a tant parlé dans cette émission, qui ont eu un rôle et qui ont toujours un rôle important dans la lutte contre le sida, là-dessus ont un peu baissé la garde?
C'est pas qu'elles ont baissé la garde, mais elles voient moins. Les gens qui sont capables de se contaminer. Elles les rencontrent moins et elles ont moins d'audience auprès de ces gens.
Vous terminez cet ouvrage, oui, Catherine Solano, vous
dire. Je dirais bien une petite chose. Moi, je dis beaucoup aux parents qui ont un garçon qui leur dit qu'il est homosexuel, parce que maintenant on le dit plus facilement. La première chose à dire, c'est pas au secours, je vais pas avoir de petits enfants, etc. C'est de dire, écoute, protège-toi, parce que vraiment, il y a une forte contamination dans la communauté homosexuelle qui continue, même s'il y a aussi des hétérosexuels. Mais c'est vraiment ça qui est. On a envie de te garder en bonne santé, quoi, de dire ça.
Et ça, c'est un peu la différence entre guillemets Nord-Sud, c'est qu'en France, c'est surtout la communauté homosexuelle qui est particulière. particulièrement touchés. Sur le continent africain, c'est une épidémie hétérosexuelle.
Hétérosexuelle avec une majorité de femmes maintenant. Hein.
Vous terminez votre ouvrage, Daniel Messager, en disant « Peut-on envisager la fin du sida ?»
Alors, déjà, il y a une information très importante qu'on a déjà dite, mais il faut la redire. L'important, c'est de se faire dépister. Si on sait qu'on est séropositif, on va se faire traiter. Si on est traité, on ne sera plus contaminant. Ça, c'est un des moyens d'arrêter l'épidémie. Évidemment, si l'épidémie ne progresse plus, un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Et puis ensuite, il y a tous les espoirs qu'il y a concernant la recherche. La recherche, ce ne sera pas un vaccin, je pense. Ce sera une combinaison d'un vaccin thérapeutique, d'un vaccin prophylactique, d'une façon de renforcer les défenses immunitaires de l'organisme, d'aller débusquer ces cellules réservoirs. Vous le savez, Claire, ce sont ces cellules où se cache le virus, même quand une personne n'a plus une charge virale détectable. Il y a encore le virus qui est caché quelque part. Donc, ce sera une combinaison de tout ça. Et bien sûr, j'espère qu'on arrivera au bout
de cette
épidémie.
Et alors, on reviendra dans l'émission de vendredi avec le professeur Delfrécy sur toutes ces recherches, les avancées de ces recherches. Et n'hésitez pas vraiment dès maintenant, d'ailleurs, à poser vos questions, le professeur Delfrécy y répondra. Merci beaucoup Daniel Messager et Hélène Cardin. Je rappelle que vous avez publié La Révolution Sida, un livre qui paraît aux éditions Odile Jacob. Demain, on parlera de l'hypertension à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui aura lieu à la fin de la semaine et qui sera justement consacrée à cette question. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions par email à priorité.sante@rfi.fr, par téléphone au 33 1 84 22 75 deux fois et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Au revoir à tous et à demain.